Bonjour mesdames et messieurs et tous les autres, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch, encore plus de popcorn. Je suis comme d'habitude moi-même Louis Laramée, accompagné de mes deux co-animateurs co-animatrices Mélina Lopez-Nadeau.
Bonsoir.
Et Jim Boulay.
Moi je ne suis pas moi-même.
Tu n'es pas toi-même.
Non,
et on n'est pas,
pas
le soir non plus.
Fait en
que
plus,
ça
oui,
règle
ça.
La question quand voilà. Même assez solidement.
C'est vrai que bonsoir le matin ça sort toujours un peu.
Non c'est ouais. Ça. Merci Mélina.
Ben, c'est ça. Pour vous faire parler en fait ça a fonctionné.
Qu'est-ce que oui. Parlant de parler, on parle de nos nouvelles de la semaine. Jim, qu'as-tu à nous expliquer?
Ben, en fait, comme vous le savez, je parle chaque semaine du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke.
On sait qu'à chaque semaine, tu parles, ça.
Oui, mais là, c'est rendu qu'à chaque semaine, je dis que c'est la semaine qui suit. Puis finalement, c'était pas tout à fait vrai la semaine passée. J'étais tellement emballé par le festival que j'ai dit que c'était dans quelques jours. Alors que là, maintenant, oui, aujourd'hui, c'est dans quelques jours. En fait, après-demain, se lève le festival, donc la soirée de lancement. Il y aura d'ailleurs la projection du film d'ouverture La promesse de l'aube qui aura lieu demain, après-demain, le lundi 9 avril à 19h à la Maison du cinéma.
Et... Mais Jim, je t'arrête un instant. Oui. L'aube, ça arrive aussi demain matin, après-demain matin, ben, puis l'autre après-demain matin, à l'est habituellement.
Sacré Louis.
Oui, ben en fait, tu le diras à Romain Gary parce que, en fait, c'est un film adapté du roman autobiographique d'aventure initiatique, je lis la description, du même nom, donc La promesse de l'aube de Romain Gary. Ce long métrage, donc, est dit ambitieux et est emmené par Pierre Ninet dans la peau de l'écrivain. Donc voilà, ça va être présenté lundi, évidemment, par la suite. Beaucoup d'événements partout au centre-ville de Sherbrooke et même au centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Et il va y avoir une centaine de films au total en projection de différentes manières. Alors voilà, à suivre. Mais là, cette fois-ci, c'est vrai. C'est cette semaine.
C'est du 5 au 9 avril. Là.
C'est du 9 au 15 avril.
9 ouais. Au 15. Il y avait un 5. Je savais qu'il y avait un 5.
Voilà, ben c'est ça. C'était le 15.
C'était le 15, excellent. Ouais. Moi, cette semaine, je parle de musique. Parce que, vous vous rappelez, j'ai vu Un chien de garde, qui était un excellent film québécois, mais qui avait aussi la particularité d'avoir une excellente bande sonore québécoise,
oui.
Composée de hip-hop. Puis j'ai été écouter l'album Une année record de Loud, du célèbre trio Loud, Larry et Just, que je trouve absolument extraordinaire comme album. Je recommande Une année record à tout le monde, spécifiquement Devenir immortel et puis mourir, qui est vraiment chamboulé ma perception du hip-hop québécois.
Ah, carrément.
Ben, non, j'exagère parce que j'aimais vraiment ça avant de commencer, mais cet album-là, je l'écoute en boucle depuis que je l'ai découvert, ça fait maintenant 72 heures que...
Il y a quelque chose qui me dit que ça va être une année record pour ce disque.
C'est déjà fait, en réalité, ils ont déjà le record de l'année de 2017.
Wow.
Yep. Et là, ta nouvelle de la semaine.
Oui, en fait, moi, dans les derniers temps, je suis allée voir plusieurs films, comme vous le savez, et dans deux films que j'ai vu Un raccourci dans le temps, et avec Amour, Simon. Et qu'est-ce qui m'a marqué dans ces deux films-là, en fait, c'est que avant que le film commence, avant qu'on ait même les signatures des maisons de production, on avait un court clip de ben, dans le cas de A Wrinkle in Time, Un raccourci dans le temps, c'était la réalisatrice Ava DuVernay qui s'adressait au public en disant qu'elle les remerciait d'être dans la salle pour être venue voir le film. Et qu'elle espérait que, c'est ça, qu'on aime le film. Mais,
une sorte d'apologie pour ce qui allait arriver, là, oui.
Oui, ben je...
C'est chien le film.
Je sais que j'ai pas trop apprécié le film.
Mais et dans Avec Amour, Simon, on avait la même chose, mais c'était les comédiens, deux comédiens qui étaient là. Et c'est vraiment pour remercier l'entièreté de l'équipe technique qui a travaillé sur le film. Donc j'ai trouvé que c'était deux petites attentions intéressantes.
OK. Ça filme un peu comme les bandes de musique qui, c'est solo de fin, font comme... On remercie Steve au son. On remercie Manon qui s'occupait de la régie.
Ça, c'est comme dans la web-série Contrat de gars, là.
Ah non, mais c'est aussi dans la plupart des jeux de musique. Jim, faudrait que tu sortes
ah
plus
non,
souvent.
Ah
on va avoir besoin
ça,
que
ça. On
tu...
est donc bien en dedans tout seul.
OK, c'est pour ça qu'on fait une émission sur le cinéma et non voilà. Pas sur la musique contemporaine.
Voilà.
Excellent. Donc, en cet épisode, nous allons vous parler de La Bolduc, La mort de Staline, également une critique commune de Ready Player One, mais également Jim nous parle de Foxtrot. Mélina, t'as été voir un film cette semaine, un autre?
Oui, un autre film. On doit être rendu au 25e environ qu'on voit chacun en tout. Donc ça fait à peu près 75 films qu'on voit à Ciné Brunch.
Ça, c'est compter les films qu'on voit pour le plaisir. Là. Moi, en fin de semaine, j'ai vu Shaun of the Dead, que je trouve toujours excellent. Sam and Peg, mon brother.
Moi, je vois jamais de films pour le plaisir. Je déteste le cinéma.
Moi, je déteste le plaisir.
Ouais.
Bon. Voilà.
Je déteste. Bon, OK. T'as été voir La Bolduc cette semaine.
C'est ça. Je suis allée voir La Bolduc. Donc, le tout dernier film de François Bouvier. Donc, pour ceux qui connaissent pas La Bolduc, je sais pas si ça existe des gens comme ça. On pourrait mettre un extrait. Mais avant, je vais vous lire le petit résumé officiel de ce film. Donc... À Montréal, au début du 20e siècle, une mère de famille pauvre et sans éducation réussit à sortir sa famille de la misère en devenant une chanteuse folklorique au succès retentissant, avec en arrière-plan la crise des années 20-30 et les premiers élans de la lutte pour les droits de la femme. Le scénario retrace la vie de Mary Travers Bolduc, sa carrière fulgurante, son mariage difficile et sa relation touchante avec sa fille aînée Denise, qui jouait du piano sur les disques de sa mère et rêvait de devenir actrice à Hollywood. Donc on classe ça comme un drame biographique, et c'est un peu ce que c'est. Et dans les rôles principaux, on a Émile Proulx-Cloutier qui lui se trouve à jouer le mari, Édouard Bolduc, Rosemarie Perrault qui joue Denise Bolduc, Bianca Gervais, Mylène Mackay, Yann England, Serge Postigo, Germain Hood, Paul Doucet, Luc Séné et Debbie Lynch-White qui va jouer la fameuse Madame Bolduc.
Je savais pas ça, mais Madame White chante dans la vie, comme elle a un album à son nom, puis elle a déjà comme...
Non, la Madame qui fait la Bolduc?
Oui.
Elle va même faire, en fait, une tournée de la Bolduc.
Ouh!
Donc, sans plus tarder, hein, la bande-annonce du film La Bolduc.
Nous, on se charge de l'ouvrage.
Tant que je serai pas couché dans ma tombe, ma femme aura pas travaillé.
Oh, t'as vu à nous?
Je vais au Monument National, tu veux me faire mourir.
Dans longtemps que je couche par terre, je vais te coucher dans mon lit ce soir.
Pensez nous voir cette semaine avec votre mari. Si jamais on s'entend, lui puis moi, ben, on pourrait signer un beau contrat.
J'admirais tellement ma mère. Cette jeune femme-là allait devenir la légende du spectacle puis de la chanson.
Mon gros contrat, c'est pour 4 faces. Et rendu là, j'aimerais ça que ce soit vos compositions.
Bien certain.
Mais vous allez chanter quoi? La cuisine?
Je vais vous dire quelques mots d'une belle cuisinière.
Film, probablement le film québécois le plus attendu du printemps.
J'ai vraiment hâte moi-même de le voir. J'ai pas pu aller au c'est ça. Cette semaine, je vais aller le voir aussi.
Bon.
Eh bien.
Surtout qu'il est sorti hier.
Oui, mais j'ai pas le temps là en fin de semaine. Comme faut que j'y aille la semaine qui s'en vient.
C'était dans ton bon droit.
Ben, j'espère bien.
Bref, La Bolduc. Donc, c'est un film que, d'entrée de jeu, j'ai bien aimé. C'est pas un film extraordinaire, mais je pense que c'est très bien. Ça permet de raconter une époque assez marquante, je pense, pour le Québec. On fait beaucoup de liens avec, justement, la lutte pour le droit des femmes, comme on parlait. On voit Thérèse Casgrain à plusieurs reprises et qui va même dire à la fille de La Bolduc que sa mère l'a beaucoup inspirée. Alors qu'en tant que telle, elle ne lutte pas vraiment pour le droit des femmes.
Ouais.
C'est ce qui est assez intéressant. On voit plusieurs réalités de l'époque qui sont assez loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, La Bolduc ne peut pas signer au début ses contrats elle-même. Il faut que son mari vienne signer les contrats. Elle n'a pas de compte de banque, donc ce n'est pas elle qui reçoit l'argent. Et son mari, on l'entendait d'ailleurs dans la bande-annonce, ne voulait pas qu'elle travaille, en fait. Et à un moment donné, je crois qu'il y a un mal dedans, il ne peut pas travailler. Et c'est là qu'elle dit « bon, ben ok, je vais le faire ». On la voit à plusieurs reprises dans des moments qui ne sont pas des spectacles. Donc, c'est des moments que j'ai trouvé fort intéressants, c'est-à-dire des parties de Noël dans l'appartement. Et ouais. La musique se fait de façon beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on prend des cuillères, on tape des mains, on chante des chansons à répondre et on s'accompagne d'un piano, d'un violon. Même chose à l'église. Donc, ça donne, je trouve, des moments qui sont très beaux, très touchants. J'ai beaucoup aussi aimé, d'un point de vue historique, Montréal à l'époque. C'est différent, c'est beau, c'est pour quelqu'un qui est pas trop familier avec cette époque-là, je pense que ça reste très intéressant à voir. Sinon, au point de vue de la musique, pour ma part, j'ai bien aimé ça, mais j'ai vu le film avec toi, Jim, et tu m'as dit que t'étais quasiment fâché, en fait, en sortant du film, parce que, semble-t-il, que les musiciens, la musique, l'image ne fitaient pas.
Mais tu sais, souvent dans les films, là, on a tendance à tourner un petit peu les coins ronds à ce niveau-là. C'est très rare qu'on engage des vrais musiciens, acteurs. Donc, en général, on fait semblant, on les coach un peu pour qu'ils fassent semblant de jouer. Pendant que la musique, en général, je te dirais que c'est pas très grave. Sauf que dans un film comme ça, qui est vraiment un film de musique, j'aurais, mettons, apprécié un peu plus de réalisme. Là. Vraiment, le violon n'a pas l'air de jouer. Les instruments n'ont pas l'air, les instrumentistes n'ont pas l'air de jouer leur instrument.
Bon, fait que Jim, ça, encore une fois, nous prouve que c'est un nerd. C'est ça que j'entends de cette critique-là.
Ben non, mais tu sais, faut pas que ton œil aille là, mais veux pas le cinéma, c'est ça. Hein. Ça nous permet de regarder aux endroits qu'on n'est pas supposé regarder.
Et si ton œil va là, je crois qu'après...
Après, il va difficilement s'en aller de là.
C'est ça, exactement.
Ouais. Donc, ma seule déception, je dirais.
Ouais. Oui, vraiment. Outre ça, j'ai vraiment trippé sur les effets visuels, c'est-à-dire le vieillissement des personnages, parce qu'on suit la Bolduc du début... de même du début de sa carrière, même à son arrivée à Montréal, jusqu'à sa mort, en fait. Et le vieillissement des personnages est extrêmement bien fait. On a eu une petite discussion après parce que Jim pensait que l'actrice Debbie Lynch White était beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était réellement, tellement les effets sont bien rendus au niveau du maquillage et de la composition d'image. Excellent.
Ah, ça m'a troublé. Je lui ai redonné dans la cinquantaine et on m'a dit qu'elle était plus jeune que moi.
Voilà.
Oui, en effet.
Donc, quand même. Hein, voilà. Quand même,
c'est réussi. Elle a fait 20 ans, je pense.
Oui. Sachant que déjà, j'ai l'air assez jeune pour mon âge, ça vous donne une idée. Hein.
Jim a la mi-quarantaine à ce point-ci dans sa tête.
Oui, ça peut-être.
Et c'est ça, j'ai bien aimé le film. Je vous dirais que c'est un film à voir parce que, juste pour le contexte historique dans lequel ça se situe, pour ceux qui sont moins familiers aussi, moi, je veux dire, ma grand-mère chantait des chansons de la Bolduc, là, c'était comme courant, là. Mais je pense peut-être aux plus jeunes ou aux gens qui sont moins familiers. Et je pense que pour ceux qui sont, qui étaient plus dans cette époque-là aussi, ça peut être un très beau film à voir pour se remémorer des souvenirs et voir aussi la réalité politique. Je trouve qu'elle est quand même bien montrée à cette époque-là, ce qui rend ça, ce qui met de la substance dans le film. Et sinon, pour terminer...
Ta note, Mélina?
Ma note. Je pousse la note parlant d'un film de musique.
Oh. Non, ça, c'est... Ça, on a dit non, je pense, dans l'émission. Est-ce qu'on n'avait pas passé au vote, moi, tout seul, puis moi, contre les jeux de mots de cette nature?
Je reconnais ton veto.
Merci. Mélina, donc, ta note?
J'irai avec un sol majeur.
Bon, on va couper ça au montage. En fait, je pense qu'on va juste couper Mélina au montage. À ce point-ci, guys, on va se le dire.
Non, mais pour vrai, ta note?
Non, pour vrai, ma note, j'irais avec un 7.3.
Oh.
Ben, c'est pas tant
qu'est-ce que ça aurait pris pour avoir un 7.5 versus un 7.3?
De l'originalité. Ou l'inverse.
C'est-tu si pire que ça? Pourtant, ça reste
non, c'est un bon film. C'est un très bon film.
C'est l'usage du .3 qui ne me va pas bien en ce moment.
Mais elle a donné un 9.8, je pense, la semaine dernière.
À Louise Cavalier. Mais Louise quel Cavalier, donc, film excellent.
C'est le 2 points qui manque.
Oui. OK, je vais garder ça.
C'est même subjectif, les critiques de films, Louis. C'est pas comme la musique. Hein. Un do, c'est un do. Mais un 7.3, pour moi, c'est peut-être un 8 pour toi.
Ouh.
Ok, hey, merci beaucoup Mélina. Merci beaucoup Jim.
Il avait un commerçant, je vous dis qu'il était chalant. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ses gais refrains. Des carottes pis des navots, venez voir comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes. Des carottes pis des navots, des betteraves pis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux. Des patates pis des tomates, on en a des roux, des vertes.
En fait, je vais faire un erratum. Après réflexion, j'irai avec un 7.75 sur 10 parce que j'ai quand même vraiment aimé ça, ce film-là. Et on pourrait même s'approcher, là, si on arrondit, ça donne un 8, ça me convient. 8 sur 10, c'est comme on dit... La bonne note, j'ai poussé la bonne note.
Bon, voilà. Merci.
J'avais fait quelques fausses notes avant, donc là, je rectifie la tonalité.
Je me reconnais de moins en moins dans cette émission-là. Finalement. après vous en avoir parlé pendant quelque chose comme 4 semaines d'affilée, oui. Plus d'avoir teasé le bande-annonce qui a été sorti, là déjà 3 mois de ça, plus de m'être excité le poil tout seul chez nous à plusieurs reprises à ce niveau-là, j'ai finalement été capable de voir le film La mort de Staline. Non seulement est-ce qu'il a fallu que je le voie en anglais, mais en plus il a fallu que je le voie à Montréal, de toutes les choses, parce qu'il était pas disponible à Sherbrooke. Puis de ce que je comprends, la maison de production ne sortira pas à l'extérieur de Montréal non plus.
Vois-tu.
Fait que...
T'as bien fait d'y aller.
Ben oui. Mais pourquoi est-ce que j'avais autant l'excitation du poil? Là, je pourrais vous faire l'explication. Je vais juste mettre la bande-annonce. Puis sachez que c'est un extrait. Là, je m'excuse d'ailleurs à nos auditeurs, auditrices. Il y a un des sacres. Deux, c'est uniquement en anglais. Il n'y aura pas de traduction non plus. Il y a seulement un sous-titrage qui va être fait dans les salles en français. Faut que je vous le mette. Parce que, honnêtement... Cette bande-annonce-là est le trois quarts de la raison pourquoi est-ce que j'avais autant de voir ce film-là. L'autre quart, c'était le cast d'acteurs et la personne en charge du projet. Fait que je vous mets la bande-annonce, puis après ça, on s'en parle.
Should we investigate?
Should you shut the fuck up before you get us both killed?
Stalin's dead.
He's dead.
Stalin is dead!
Oh my God.
Our general secretary is lying in a puddle of indignity.
Yeah, he's feeling unwell, clearly.
I want to make a speech at my father's funeral.
But no problem.
Technically, yes, but practically.
When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me.
C'est-tu Monty Python qui fait ce film-là?
Non, c'est... je veux pas... Là, je vais scraper son nom, je m'excuse d'avance. C'est Arnaud Iannucci, qui est la personne en charge de la série télévision Veep, qui est une satire du système politique américain. Il a écrit un paquet de trucs, le dos, mais là, c'est la première fois qu'il écrit, co-écrit et réalise un film, un long-métrage, et c'est La mort de Staline. Là... Ce qu'on a entendu, c'est ce n'est que les premières minutes là, du film. C'est le moment où est-ce que Staline meurt d'une crise cardiaque. Le puddle of indignity qui est mentionné ici, ce sont les résidus humains qu'il a excrété avant, en mourant. Puis tout le film est une espèce de satire politique louche. Je vais juste lire la description là. Russie 1953, le dictateur Joseph Staline, après plus de 30 ans de carrière à la tête de l'URSS, décède d'une attaque cérébrale. Bien loin de pleurer leurs dirigeants, ses généraux et ses ministres se querellent déjà pour savoir qui prendra la barre de leur pays. Entre un député, un politicien, l'héritier, le chef des services secrets et un général qui se font la guerre pour le pouvoir, cela ne peut pas bien finir. Chacun y a une idée précise, mais divergente sur ce qu'il conviendrait de faire, aucun compromis ne pointe à l'horizon. Qui gagnera la bataille?
Ok, fait que c'est une joute, c'est le combat des coqs, là, des chefs. Là.
Absolument pas. Ça aurait pu être ça. Il y a même certaines tentatives qui sont faites d'être ça, mais concrètement, tout ce que c'est la mise en abîme et l'espèce de parodie la plus intéressante que j'ai vue de ce que c'est qu'un système politique géré à la va-vite par des conflits de personnalité, par des espèces de weird reflux bizarre de stalinisme, mais en même temps de volonté libératrice. Où est-ce que, dans les premières scènes, justement, où est-ce que Staline meurt, un des gros imbroglios qu'on voit, c'est qu'il faut trouver un médecin pour s'assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour le sauver. Mais tous les bons médecins ont été exécutés pour trahison. Fait qu'il reste plus de bons médecins à Moscou. Fait qu'il faut donc chercher des mauvais médecins. Donc on se ramasse avec une recherche dans la nuit de médecins trop vieux ou trop jeunes qui n'ont pas encore été exécutés. Également, dans les premières scènes du film, c'est une histoire vraie. Ça a été légèrement modifié dans le film, mais d'une présentation musicale qui est faite à la radio. Le grand camarade Staline l'entend et demande à avoir l'enregistrement à la maison pour pouvoir en profiter parce qu'il a adoré la présentation. Malheureusement, il n'y a pas eu d'enregistrement qui a été fait live. Fait qu'on doit retrouver des gens pour re-remplir la salle. On doit retrouver un nouveau chef d'orchestre parce que celui qui était là s'est écroulé. On recommence la présentation au complet à gros prix auprès des musiciens. Donc, c'est tout ça. C'est une suite d'imbroglios des plus ridicules. Les acteurs qui sont dans ce film-là, c'est Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Rupert Friend, Simon Rossenbell, Jason Isaac et Paddy Considine. C'est un cast extraordinaire qui nous fait vivre une suite de mésaventures politiques de plus en plus rocambolesques qui finit avec des exécutions à la va-vite, des scènes de toute beauté. Bref, c'est pas de l'humour pour tous, ça reste de l'humour politique, ça reste de l'humour de situation. C'est très britannique comme situation. D'ailleurs, c'est une coproduction Grande-Bretagne-France-Belgique qui a été décriée comme étant un crime contre l'humanité, une vulgarité incroyable par le gouvernement russe.
Évidemment, oui.
Mais que je recommande à tous, ou à tout le moins à tous ceux qui ont le moindrement un intérêt pour la politique, parce que c'est vraiment... Je pense que Iannucci, le directeur de ce truc-là, sait faire de mieux. C'est-à-dire de pointer du doigt, d'un point rieur et accusateur, tous ces moments où est-ce que le système qu'on pense qu'il fonctionne s'écroule et tombe dans le plus ridicule et le plus conflictuel qu'on peut imaginer de l'humain. Un solide 9.5 sur 10 carrément. Que je donne à ce film-là. Je l'ai adoré. Je le recommande pas à tous, parce que justement, ça reste de l'humour politique, ça reste de l'humour de situation, ça peut être très sec. Je recommande une bonne connaissance de la langue. Également, peut-être une connaissance même mineure des événements entourant le film, ne serait-ce que pour connaître les protagonistes.
OK.
Steve Buscemi qui joue le secrétaire d'État, c'est plus compliqué si on connaît pas où est-ce que ça s'en va.
Ça va être plus drôle aussi si on connaît, parce qu'il y a des liens et tout ça. Ouais,
okay. Oui, quand Molotov, on lui offre un cocktail, c'est toujours très drôle. Oui.
On est là, vraiment. Okay, c'est très britannique, comme tu dis.
Oui, mais ça vaut vraiment la peine. Là. Comme je suis rentré là, je m'attendais à rien, je suis sorti de là, j'étais plié en deux de rire. Fait que oui, un solide 9.5. Pas de 9.8, parce que quand même, quelques longueurs, au moins un chien abandonné. Mais...
Comment ça donne des points quand les chiens sont abandonnés? C'est drôle, hein? On a pas la même façon de critiquer.
Non, mais il fait juste... Il est pas vraiment abandonné autant qu'il est juste oublié. Fait que c'est justement dans la recherche des médecins, il y a comme un chien. En tout cas, c'est compliqué, mais c'est le fun. C'est beaucoup de plaisir. Donc, 9.5 sur 10, ça valut la peine que je descende à Montréal pour aller voir ça.
Ouais. Dommage que ça soit pas...
Ben, je sais pas, ça se peut, en fait, que ça sorte à Sherbrooke. Je sais qu'il y avait des dates de sortie additionnelles prévues à la fin avril par la maison de production, mais je sais pas si Sherbrooke va être intéressé à aller le chercher. Ça reste quand même un film avec un attrait quand même limité.
Bon, ben, ça donne le goût de le voir pareil.
Mais merci, Louis, de t'être rendu...
dans la grande ville.
Dans la grande ville pour nous.
Uh-huh.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti
On est donc rendu au moment des sorties cinéma de la semaine prochaine. C'est un peu plus léger à la maison du cinéma parce qu'on va être à un après-festival du cinéma, fait qu'il va y avoir des affaires qu'il va falloir en passer qui n'ont peut-être pas eu le temps de passer.
Ah, OK. Léger comme...
Trois films. Hein.
Ah oui.
Non, le Petit Spirou est déjà sorti, fait que je sais pas pourquoi tu... Ravage, la version originale de Rampage, réalisée par Brad Peyton, mettant en vedette The Rock Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Ackerman, John Manganiello, Brain Hill et Marley Shelton.
On te laisse.
Primatologue.
Ça a vraiment pas l'air bon.
Mais même moi, je suis pas convaincu. Mais en même temps, j'ai un amour profond pour Monsieur The Rock.
En tout cas, j'ai vu la bande annonce. Puis...
Ouais, moi aussi. Je
pas convaincu.
Primatologue de profession David Okoye, Dwayne Johnson, a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour Georgie, adorable gorille d'une intelligence hors du commun dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul, puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, dont un loup qui vole, en tout cas, détruisant tout sur leur passage.
Qui vole comme un écureuil volant. Là, avec des...
C'est comme un tilapia loup.
Tilapia, c'est un poisson.
C'est quoi le nom du...
un tamia.
Tamia. C'est comme un tamia loup. C'est raison, le tilapia, c'est mon lunch.
Oui, je fais avec le poisson depuis... C'est poisson d'avril la semaine dernière, peut-être.
C'est peut-être ça. Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils empêcher la planète d'être ravagée? En tout cas, Vérité ou conséquence, la version originale de Truth or Dare, que je vais peut-être aller voir à la place. Mettant en vedette Lucy Hale, Tyler Posey, London LeBaron et Violet Bean. Un jeu innocent de vérité ou conséquence entre amis devient mortel quand quelqu'un ou quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou refusent les conséquences.
Oh boy.
Non, et la bande-annonce rend ça vraiment drôle. Ça, je pense
que ça aurait été un film pour l'Halloween, ça. Un peu, là.
Ben, Jim, faut qu'on se parle que les films d'horreur, c'est pas juste lié à l'Halloween. Des fois, il y a des films d'horreur qui sortent à d'autres moments de l'année.
Non, non, c'est juste pour l'Halloween.
Oh, OK. OK. Cheval Indien, la version originale de Indian Horse, qui aussi vu la bande-annonce et qui a aussi à l'air excellent. Mais cette fois-ci, c'est un film de hockey.
Qui parle... Cheval Indien.
Cheval Indien. Oui.
Comme dans la thématique du film de danse qui s'appelait Le Cheval de Feu.
Peut-être.
C'est vrai.
Enfermé dans un centre de désintoxication, Saul Cheval Indien touche le fond et il semble qu'il n'y ait plus qu'une seule issue à son existence. Plongé en pleine introspection, cet Ojibwe d'origine Anishinaabeg du Nord ontarien, là, si j'ai massacré les noms amérindiens, je m'en excuse, se remémore les horreurs vécues dans les pensionnats autochtones et sa passion pour le hockey. Fasciné par ce sport, Saul apprend par lui-même à jouer et développe une technique unique et une maîtrise impeccable. Invité à se joindre à une ligue autochtone du nord de l'Ontario, Saul sera hanté par les fantômes de son passé. Il sera confronté au racisme et subira les effets dévastateurs de l'aliénation et du déracinement culturel qui ont frappé plusieurs communautés des Premières Nations. L'histoire de Saul Cheval Indien dresse avec empathie et perspicacité le portrait d'un homme broyé par son destin et plus largement d'une génération d'Autochtones victimes de leur époque et du déclin de leur culture.
C'est réalisé par qui, ça?
Stephen S. Campanelli.
Un Canadien, une petite évidence.
Oui, mais que je connais pas. Il y a personne en fait de connu, c'est Michelle Wiseman, Martin Donovan, Michael Murphy, Edna Manitowabi, Melanie McLaren et Johnny Issaluk qui jouent là-dedans. Ça a l'air bon, j'ai vu la bande-annonce puis j'étais vraiment impressionné. Même si à la base c'est un drame puis c'est un film de hockey qui sont pas des choses qui m'intéressent plus qu'il faut, mais lui, ça a l'air bon, j'y croyais.
Eh bien, à suivre.
Nous sommes de retour à cette merveilleuse émission qui est Cinébrunch. Nous allons vous faire notre critique commune de Ready Player One. Mais avant tout, Jim nous parle de Tango. Non, de Charlie. Non, de Delta.
Danse.
Non, de Foxtrot.
Oui, Foxtrot. Ni l'album de Genesis, ni la danse. Quoiqu'il y ait une référence à la danse dans le film, j'ai donc été voir le film Foxtrot au cinéma. Encore une grosse collaboration européenne, donc une production israélienne principalement, mais aussi suisse, allemande et française. J'ai vu le film en hébreu, sous-titré en français. C'est réalisé par Samuel Maoz, qui avait aussi réalisé le film Liban en 2010, qui traitait un peu de, justement, la guerre du Liban, d'une manière un peu, justement, pas satirique, mais un film de guerre, là, tu sais, sur les difficultés qu'engendre la guerre dans la psychologie humaine. Et, bon, les acteurs pour le film Foxtrot sont des comédiens israéliens dont je ne connais absolument rien. Et, en tout cas, je parle pour moi, là, peut-être que vous les connaissez, mais moi, non, vraiment pas. Ça me dit absolument rien.
Ma culture des acteurs israéliens n'est pas très développée.
Ben, tu devrais peut-être t'y mettre parce que franchement, c'était plutôt réussi à ce niveau-là. Pas la peine d'en dire plus, voici la bande-annonce.
Mar Feldman. Jonathan Feldman nehrag alayla ba'et milui tafkido.
Kuvim acharenu.
Donc, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Ouais, ça ne dit pas grand-chose, mais ça ne dit pas grand-chose non plus visuellement, croyez-le ou non. Quel film étrange, franchement.
Mais la trame sonore semble intéressante.
Ouais, il n'y a pas vraiment de musique, honnêtement. Il y en a très peu dans le film. Donc, je dirais vite comme ça, je ne sais pas trop quoi dire sur ce film-là, donc on va arrêter ça maintenant. Mais le film s'appelle Foxtrot. c'est disponible à la maison du cinéma. Voilà. Non, c'est pas vrai. Donc, mais c'est vraiment un drôle de film. C'est bizarre, pas drôle, drôle. Là. C'est un film de deuil, à la base. Je dirais, l'histoire est divisée en trois phases. Donc, des étapes indépendantes, si on veut. On commence le film avec des militaires qui arrivent chez les Feldman pour leur annoncer la mort de leur jeune fils, Jonathan, qui est tombé dans l'exercice de ses fonctions militaires. Donc, la première demi-heure, c'est vraiment sur la réaction difficile de ses parents et de la famille de Jonathan. Après 20 minutes à me demander où est-ce qu'il s'en allait avec ça, là, honnêtement, je me suis dit, tiens, Je pense que les films expérimentaux ou très abstraits qui gagnent les Palmes d'Or à Cannes, ben en fait, c'est que ceux qui votent pour ces films-là doivent juste absolument rien comprendre. Puis pour pas avoir l'air idiot, ils font semblant qu'ils comprennent puis ils votent pour ces films-là. Fait que je me suis dit ça, puis tout de suite après, j'ai changé d'idée. Parce que franchement, accrochez-vous à ce film-là. Après le premier 30 minutes de deuil, là, le film va finalement changer le mal de place. Ça demeure lourd et fastidieux, mais quand même. Donc, pour la deuxième partie, on est téléporté, si vous voulez, sur une route secondaire où des militaires exercent leur métier de douanier, si on veut. Une job plate, pénible, où on a le temps de dessiner, d'écouter de la musique et de trouver le temps long. On va voir, d'ailleurs, le fameux Jonathan dans ses fonctions.
Donc, on revient un peu...
Compliqué. Je veux pas donner des repères temporels, ça va peut-être gâcher un peu le punch du film. Finalement, on va terminer le film avec, encore une fois, les parents de Jonathan dans un futur un peu plus loin. Et c'est franchement rough comme film, honnêtement. Film contemplatif de A à Z, là, définitivement un film avec des grands moments d'émotion, de silence, de contemplation, du temps qui passe. Des choses comme ça mouvementées, mais on réussit à créer quand même une tension, un suspense. Voilà. Et le film, franchement, sa grande force, c'est que il joue avec nos émotions sans arrêt dans ce film-là. On nous trompe sans arrêt, on nous fait penser que ça se dirige à quelque part, et quand on commence à vraiment croire qu'on a raison, il nous amène autre chose qui, visiblement, nous dit qu'on s'était trompé sur toute la ligne. Donc, très réussi à ce niveau-là. Autre chose, peut-être, parce que j'ai peu de choses à dire sur ce film-là, en dire plus gâcherait le punch, là, les punchs. Donc, belle photographie, extrêmement ambitieux au niveau des plans, des choses comme des petites choses subtiles qu'on remarque, mais qui fait vraiment que ce film-là est un petit bijou au niveau visuel. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on pourrait résumer en disant que c'est un film éprouvant, mais qui dérange le mental quand même pas mal. Donc, très bon film. Je donne 8,5 sur 10 à ce film. Je vous recommande d'aller le voir si vous aimez le cinéma qui, disons, ose déranger. Et il ne nous tient pas par la main, ce film, Louis. Donc, peut-être aimerais-tu aller le voir.
Décidément. Est-ce que tu te sens bien en sortant de ce film-là?
Non. En fait, plutôt que nous tenir par la main, il nous fait une jambette. Donc,
Les films qui te traînent dans la boîte.
Oui, et puis d'ailleurs, c'est... Il y a de la boîte et il y a des gens qui marchent dans la boîte dans ce film-là, donc ça rehausse le côté...
Pour nos auditeurs et auditrices qui ne comprennent pas, en réalité, c'est un débat de longue date entre moi et Jim, à savoir, est-ce que ça vaut la peine un film qui t'attache en arrière d'un pick-up pendant 2 heures et te traîne dans la boîte sans t'expliquer pourquoi? Moi, je dis un définitif oui, Jim dit « je suis un chicken ».
Non, en fait, je dis « c'est pas suffisant ». Dans ce cas-ci, on a un beau mélange d'intrigue et de boîte, donc c'est très très bien.
Chicken.
Voilà, c'est tout.
Merci. Hey, merci beaucoup, Jim.
Pas de rien.
Nous sommes donc rendus à ce moment extraordinaire, ce moment où nous avons toujours énormément de plaisir. En fait, c'est le moment favori pour moi de nos émissions jusqu'à présent. J'insiste pour qu'on en fasse le plus souvent possible, c'est-à-dire la critique commune.
Mm-hmm. Oui, souvent un débat commun aussi, parfois.
Ben, ça vient avec.
Ça risque d'arriver aujourd'hui encore.
Ouh! Tant que ça?
Ouais, parce qu'on s'en est pas parlé, hein. Personne n'en est allé voir le film non. Ready Player One et personne ne sait. Ben, en fait. J'avoue que Mélina m'a dit des choses, là, mais...
Mais vous êtes allé voir ensemble?
En fait, oui.
OK.
En fait, oui. Mais je... Ouais, c'est ça.
OK, moi, j'ai pas été voir avec vous. Moi, j'ai été voir avec des chums, puis c'est ça.
Merci de dire qu'on n'est pas tes chums.
Non, mais d'autres...
C'est correct. Non, c'est bon.
Non, c'est bon. Chicken. Bon, juste rapidement, en 2045, Wade Watts s'évade de sa réalité ennuyante dans l'Oasis, un univers virtuel créé par un génie de l'informatique appelé James Halliday. Quand ce dernier décède, il décide de léguer toute sa fortune et le contrôle de l'Oasis à la personne qui sera en mesure de trouver les 3 clés cachées dans le jeu. Aidé par ses amis, Wade s'efforcera de trouver ses œufs de Pâques, ses Easter Eggs, le premier, et ainsi empêcher le patron de la compagnie EOE de devenir le nouveau propriétaire de l'Oasis. Grand admirateur du travail de Halliday, il s'efforcera de protéger sa création, peu importe le prix.
On met-tu la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance?
Je pense qu'on va mettre la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance.
Un univers entièrement virtuel. L'Oasis est la création de James Halliday.
Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques.
Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival et comment se fait-il qu'il soit en tête?
Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort.
L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur.
Bienvenue dans la rébellion.
Mon Dieu que les traductions sont pas écoutables des fois.
Et des fois, là, c'est plus dur un peu.
Ouais.
Fait que pour ceux et celles qui sont pas au courant, c'est la mise à l'écran d'un film de 2011, d'un livre de 2011 par Ernest Cline du même titre. Ernest Cline qui est un auteur dont c'était le premier roman vraiment très connu. Il a ensuite sorti Armada en 2015 et depuis, il y a une suite de Ready Player One qui serait dans les cartons.
Ah, c'est pas surprenant.
Ben écoute.
Ben c'est Spielberg, hein?
Spielberg.
De base. De et base. Ambitieux, là même, comme film. Je dirais peut-être le film le plus ambitieux de ce type-là depuis Avatar, donc qui est tout public, là. Public,
moi, je le comparais avec Who Framed Roger Rabbit.
Ah, mon Dieu, j'ai hâte d'entendre ça.
Non, non, mais tu sais, tant qu'à avoir un film où il y a des personnages réels et des personnages animés qui se
mélangent. Vu comme ça, oui, effectivement.
Film. Non, mais Avatar, c'est pas la comparaison que j'aurais faite en premier, mais je vais te laisser y aller en premier, Jim, vu que t'as l'air si bien lancé.
Mm-hmm. Ben oui, en fait, ben. Écoutez, on a parlé justement il y a une semaine ou deux des films sur les jeux vidéo. Ben là, cette fois-là, c'est comme un peu... ce que j'ai trouvé le fun, c'est que c'est un peu l'inverse. Donc, on est plutôt en train de vivre dans un univers gigantesque de réalité virtuelle et de jeux vidéo. On a un peu l'impression de regarder des gens jouer à un jeu vidéo quand on regarde ce film-là. Évidemment, bon, moi, j'ai aimé le concept. J'admets, j'ai eu du plaisir à voir ce film-là.
Avant pas le cas je vais juste poser une question rapidement. Sondage, qui a lu le livre? Mélina?
Non.
Jim? OK, moi, j'ai lu le livre.
D'accord. Ouais. Fait que toi, c'est sûr que t'as... Il y a un danger, c'est que tu vas probablement trouver que le livre était meilleur que le film ou l'inverse, mais...
Je t'en parle tout à l'heure.
On s'en parle tantôt. En tout cas, bref. Moi, j'ai adoré le concept comme tel. Effectivement, point négatif selon moi de ce film-là, énormément trop de clichés, ça n'a aucun bon sens. C'est bon, les petites histoires d'amour cucu, grosse dualité du bien et du mal, les méchants qui se comportent vraiment comme s'ils étaient nés de même. Bon, le film s'adresse, à mon avis, il faut en tenir compte, à un public plus jeune et probablement beaucoup plus large que nous. Clairement, c'est un film qui se veut un peu ado, famille, mais disons que sinon, j'ai trouvé ça très bon. Il y a des belles références dans ce film-là. J'ai adoré les scènes dans The Shining, le film de Kubrick. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant, en fait. Ça m'a plu tout à fait. Je me suis même dit, peut-être, ce film-là aurait été le genre de film que j'aurais été voir en 3D. S'il avait été en version originale en 3D, parce que ça devait être cool à voir en 3D. On dirait que le film a été un peu pensé pour ça. La course d'auto, bon bref, je ne révélerai pas tout ce qu'il y a eu dans le film, mais il y a des éléments qui m'ont paru très intéressants. J'ai aimé ça, ouais. T'sais, à part le côté un peu bébé et cliché, là, j'ai eu du plaisir, comme ça faisait un certain temps que je n'avais pas eu au cinéma dans un film de type divertissement. Donc c'est quand même, c'est bien, ça m'a surpris un peu, mais c'est bien. Mais c'est sûr que, bon, écoute, c'est ça. Je le regardais en me disant que c'est un film que j'aurais aimé voir ado, tu sais. J'aurais vraiment capoté, tu sais. J'aurais acheté tous les gadgets puis les bébelles, tu sais, c'est ça.
Mélina, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, clairement, je suis pas le public cible pour ce film-là parce que j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé ça plate puis j'ai l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma vie.
2h20.
2h20 de ma vie.
Ouais, c'était long quand même pour ce que
c'est
c'était.
Beaucoup d'heures, ouais,
c'est beaucoup d'heures, beaucoup de minutes passées. Comme tu as dit, j'aime énormément de clichés. J'ai trouvé pas, j'ai trouvé qu'on passait à côté de l'opportunité d'innover, d'essayer des trucs, composition de l'image, pas grand-chose, photographie, pas grand-chose, réalisation, pas grand-chose, clichés, beaucoup de clichés. On dirait qu'ils sont allés piger dans la banque de clichés, puis on dit « Hey, on va juste mettre plein de clichés dans ce film-là ». Pour être honnête, j'ai pas lu le livre, donc peut-être que les clichés étaient déjà dans le livre. Et non, c'est ça. J'ai juste pas aimé ça, mais je suis consciente que je suis vraiment pas les gens qu'on visait par ce film-là. Donc, ça l'explique peut-être pourquoi j'ai pas aimé ça.
Mmh. Et Calvin, moi, j'ai une tâche difficile en ce moment parce que moi, j'ai lu le livre.
Oui.
Puis, si vous avez été un peu en ligne, vous savez qu'il y a d'énormes différences entre le livre et le film. D'ailleurs, la plupart des épreuves ont été changées. L'arc de certains personnages a été changé.
Sérieusement,
beaucoup.
Ils ont OK. Oui, on est très loin du livre, là.
Le concept est le même. Okay. Mais par exemple, la scène avec The Shining, on aurait dû le voir avec 2 autres films aussi.
OK, ils ont coupé ça, mettons.
Oui, parce que c'était ouais. Monty Python, les répliques au complet.
Oh,
ouais. C'est, c'était cool, connaître. C'était, puis, c'était Monty Python et c'était... Je sais pas si c'est Back to the Future. Enfin, il y en a un autre.
Okay.
Il y a tout un arc où est-ce que Wade devient riche, puis devient influent.
Okay.
Dans... Il y a tout un arc où est-ce que Samantha Artemis le ditch pour partir de son bar. Tous des trucs qui sont... Qui a des hints dans le film et qui sont pas là. Mm. Mais aussi qui en fait un livre de 600 pages versus
c'est
un
ça,
film
c'est
de
dur,
2h20.
C'est dur.
Moi, j'ai... adoré ce film-là. Parce que c'est pas le cas de mes collègues. Ils ont pas été voir une série de films de divertissement vraiment décevants les uns après les autres. C'est-à-dire que après Pacific Rim Uprising, après Death Wish, après les Transformers en général, c'est le fun de retrouver quelque chose comme un film de Spielberg au grand écran, à grand déploiement, avec le budget qu'elle a avec. Pour ce qui est de la critique des clichés, des références, ils n'ont pas le choix. Le concept même du livre et la grosse critique qu'il y a eu contre le livre à l'époque, c'est que c'est une série presque sans arrêt de références aux années 80-90, mais c'est ça le concept du livre. C'est moins expliqué dans le film, mais dans le livre, c'est très clair qu'on est dans l'univers de Halliday, qui était un espèce de geek fini, obsédé de la culture populaire, et qui par conséquent, les références à Duran Duran, à Radio... TV Killed the Radio Star, etc. C'est toutes des références, en fait, qui font partie de l'univers de Halliday, qui en faisait, dans le livre, en fait, une espèce de non-stop référorama, où est-ce que tu voyais juste un autre truc, est-ce que t'étais capable de spotter que ça, c'était une référence à ça? Puis le film le faisait un peu, où est-ce que les scènes, surtout les scènes de gros combats, on devait faire la référence...
Le Gundam Wing, on donnait
Gundam
qui sort,
de
choses,
l'escouade de Master Chief qui se promène puis qui s'en va au combat, le Tracer qui est là à plusieurs reprises, qui est un personnage du jeu Overwatch, mais ça c'est sûr que j'ai reconnu moi, puis je suis pas calé tant que ça dans ces univers-là.
Puis il y a un paquet de... Ça, peut-être que c'était pas dans le livre, mais il y a un paquet de références à l'univers de Warner, parce que, bon, Batman, Superman, même au niveau de la musique, des records de Warner. Donc, comme clairement, il y a beaucoup de placements de produits aussi. On pense à Pizza Hut qui arrive en drone au début. On sait que ça a été
dit que
ça allait arriver dans un futur proche. Donc, c'est intéressant en même temps... un peu trop évident, ce bout-là. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu.
Pizza Hut manquait beaucoup de subtilité dans celle-là, mais ça a dû financer trois animateurs à lui tout seul, fait qu'en quelque part, comme...
C'est sûr, je comprends. Mais effectivement, moi, j'adorais les références, puis tu vois, ça me donne le goût de lire le livre, parce que si on m'avait mieux expliqué la pertinence des clichés dans le film, j'aurais probablement pas critiqué les clichés. Mais ça fait vraiment descendre ma note, parce que comme film... veut pas, on trouve qu'on est un petit peu en terrain connu à ces niveaux-là.
Qu'on mette les choses au clair, par contre. Toutes ces choses-là justifient les clichés et les images tirées des années 80-90 au niveau visuel, au niveau personnage. Ça n'explique pas et ça n'excuse surtout pas ce qui est vraiment les clichés au niveau narratif de cette histoire-là. Parce qu'effectivement, c'est le bien contre le mal. Effectivement,
ouais,
encore le corporate.
Bisous,
prompts et au livre et au film d'avoir gardé le fait que les personnages sont différents. C'est une raison pourquoi est-ce que c'était bien apprécié à l'époque. Ils ont enlevé un des aspects importants dans le livre Samantha est en chaise roulante.
OK, mais il me semble que...
C'était pas elle qui était en chaise roulante. Non, c'était Monroe qui était en chaise roulante. C'est le vieux Dode qui était le partner de Halliday.
Ah, OK, qui fait
c'est
le
celui
robot,
qui a les cheveux blancs. C'est celui qui était joué par... c'est ça.
Sous-utilisation des autres personnages secondaires, à mon avis, pour justifier une présence si... proche, mais évidemment, c'est peut-être expliqué dans le... C'est toujours difficile de faire un film avec un livre puis de respecter tout. Hein.
C'est ça aussi qui est intéressant, en fait, c'est que Daitomo puis Cho, qui sont présents dans le film, sont beaucoup plus présents dans le livre et ont un arc beaucoup plus tragique dans le livre que ce qu'ils ont dans le film. Ils ont aussi un setup différent de comment ils se rencontrent, de qui ils sont vraiment. Fait qu'ils ont gardé l'esprit du film, ils ont rendu ça vraiment plus léger, vraiment plus le fun. Il y a des sujets beaucoup plus trash dans
le livre,
mais en même temps, le livre est quand même inégal. C'est pas le meilleur livre. C'est pas au niveau littérature, là, on a vu vraiment meilleur. Mais le film rend ça... Le film est un film de Spielberg, au même titre que E.T.,
Le rythme est impeccable.
C'est très drôle. C'est visuellement super attirant.
Mais là, c'est drôle. Elle a pas... Moi, j'ai trouvé ça beau, mais c'est vrai, par exemple, qu'il y a une chose... peut-être que ça explique certaines choses, là. Un film qui est pensé pour être en 3D, il va pas avoir la même profondeur d'image, les paysages sont pas faits de la même façon, parce que c'est pas tourné pour le même but. Mm. Ça se peut que, tu sais, il y a une petite dynamique un peu écrasée quand on tourne pour du 3D, qui pourrait donner un peu cette impression-là de manque, parce qu'elle me parlait hors d'onde, elle me disait qu'elle faisait un comparatif avec, comment ça s'appelle déjà, l'autre film que t'as vu?
Retour dans le temps,
c'est ça.
Un raccourci dans le temps,
tu sais, effectivement, un raccourci dans le temps, les paysages sont extrêmement beaux, c'est sublime, c'est grandiose, mais là, tu peux pas faire ça.
Mais pas juste les paysages, là.
C'est ça, mais en 3D, ce film-là devait être incroyable. La course d'auto en 3D, ça devait être fourette.
Mais tout mais même en 2D, moi, j'ai adoré esthétiquement, là, comme... C'est pas mon film favori de 2018 encore, mais c'est définitivement mon divertissement favori de 2018.
Moi aussi.
Ça vient d'à côté Baby Driver dans mes films, de quand j'ai juste envie d'écouter un film.
Et moi, ça vient d'à côté Lara Croft Tomb Raider.
Le dernier, ça?
Ouais.
Ah oui, OK. Donc, quand même.
C'est bien. Je suis content parce que j'ai vu deux films divertissants agréables quasiment un après l'autre. Donc, je suis difficile à plaire à ce niveau-là. Par contre, comme je te dis, un peu bébé comme film.
Mais c'est ça, je vais finir là-dessus. Là, c'est la comparaison avec Pacific Rim Uprising, avec Death Wish, qui étaient des films qui étaient supposés être dans la même veine, étaient supposés aussi être des divertissements, over the top. Personnellement, Pacific Rim, où c'était supposé être avec des gros robots, avec de l'animation. Ouais. C'était vraiment pas... L'histoire n'était pas aussi intéressante. Les personnages n'étaient pas aussi vivants. Oui, les images étaient plus jolies à certains égards dans les rives du Pacifique, mais on n'avait pas la même envie de prendre pour les personnages qu'on avait dans Ready Player One.
Puis, non, mais ça, j'ai pas de temps à le croire. Mais moi, ce que je serais curieux de savoir avant de donner nos notes, là,
oui.
Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un jeu vidéo qui va sortir suite à ce film-là?
Sûrement.
En réalité virtuelle.
Ça fait vraiment longtemps qu'il y en a des discussions, parce que veux pas, le livre est sorti en 2011. Avec le film, possible, mais en même temps, il y a vraiment un mauvais track record de sortir des jeux vidéo basés sur des films.
Ben c'est ça, c'est ça que je me dis, on sait jamais. Là.
Même chose, des jeux vidéo basés sur les livres, ouais. À quelques exceptions près, The Witcher. Et c'est vraiment difficile à faire.
Metro 2033.
Ah, c'est vrai, c'est basé sur un livre, cette histoire-là. Mm-hmm. Aussi avoir les livres tirés sur des jeux vidéo, c'est pas bon habituellement. Bon. StarCraft me le prouve.
Mais ok, alors je suis curieux, là, c'est quoi, vous donnez combien là, pour le fun?
8.5.
Moi aussi je donne 8.5.
Sérieusement? Moi je donne 4.
Oh, quand même.
Ben, j'ai vraiment pas aimé ça, mais je peux comprendre que vous ayez aimé ça, mais j'ai vraiment pas aimé ça.
Mais t'aimes pas l'action, t'aimes pas le plaisir?
J'aime le plaisir, j'aime les trucs artistiques aussi.
Mais je pense
c'est
que...
Non, je refuse. La défense, j'aime les choses artistiques en disant que ça, c'est pas de l'art, parce que c'est du divertissement. Ça... Oh non, Jim, je veux la réponse de Mélina là-dessus. C'est pas de l'art parce que c'est du divertissement ou...
Non, c'est pas de l'art parce qu'il y a pas de recherche artistique qui sous-tend les aspects de ce film-là.
Mais au niveau visuel, il y a énormément de recherches, là, comme il y a des trucs qui ont été faits de manière magistrale pour être capable de rendre vivant et clair des scènes de combat, des scènes avec énormément de gens, avec...
Mais moi, je suis pas une experte comme toi, Louis, des scènes de combat, mais selon mes lunettes à moi, on aurait pu expérimenter des trucs vraiment plus intéressants au niveau visuel, au niveau de la couleur de l'image. On aurait pu pousser beaucoup plus loin dans ce sens-là. Puis je trouve que il y avait vraiment pas une recherche artistique intéressante derrière ces images-là.
What? Le lever de soleil sur The Iron Giant était extraordinaire.
Mais je suis un peu d'accord jusqu'à un certain point, dans le sens où c'est pas un film poétique. C'est un film beau. C'est un film impressionnant. C'est un film rafraîchissant, plein d'action. Mais t'as pas la poésie, mettons, de Recall in Time.
Je refuse d'entendre ça parce que j'ai vu le film. Puis je veux dire, je suis tanné d'entendre la critique que c'est pas de l'art parce que c'est du divertissement, ou je suis tanné d'entendre la critique que c'est pas de l'art parce que ça traite à la culture populaire. Je pense qu'au contraire, il y a énormément de moments vraiment pensés, vraiment réfléchis. Tout le personnage de T.J. Miller, I-Rock, qui sort des objets de son corps lui-même. Tous les moments avec The Iron Giant qui sont tous vraiment magnifiques. Les petits moments vraiment... qui ont l'air banales, mais qui sont super bien pensés, de géométrie des personnages qui se défont puis qui se refont pour prendre des dégâts, particulièrement la scène de voiture dont tu parlais. Moi, je pense de dire que c'est pas artistique parce que c'est populaire, ou de dire que c'est pas artistique parce que c'est ça va pas chercher une poésie plus profonde, c'est de cracher sur le cinéma des masses.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais... chacun a son opinion, hein.
Ouais, OK.
Mais en tout cas, mais moi j'ai quand même adoré ce film-là. Mais c'est ça. Mais on peut-tu juste rapidement parler des acteurs, pas les versions CGI, là, mais les versions réelles, c'est pas si cool que ça. On peut dire ça, on a le droit de dire ça.
Mais mettons,
pas des interprétations extraordinaires.
Ça gagnera pas de score, disons.
Mettons que ça gagnera pas le score des meilleurs acteurs.
Pas au niveau du jeu.
Non. À la limite, la fille un peu plus, mais les autres.
Olivia Cooke, en tant qu'Artemis, c'était quand même cool. Ouais, mais attends un peu. Il y a aussi des personnages qu'on voit à peu près pas, là. Je veux dire, justement, H, on la voit à peu près pas. Daitomo, Cho, on les voit à peu près pas.
Même Jade, pas si le fun que ça à voir en vrai, comme disons-le, là. Ça c'est mon impression. Mais par contre, l'acteur qui gagne la palme de l'acting là-dedans, c'est le, j'ai oublié son nom, le créateur de l'univers.
Mark Rylance.
Extraordinaire,
qui
extraordinaire.
Joue vraiment un beau jeu.
Beau personnage, bon. Awkward un peu, perdu.
Pas bon, un peu, là, beaucoup.
C'est ça, un peu Asperger.
Non, très bonne performance, effectivement.
Ouais, ouais. Voilà, mais bon film, moi je suis content d'avoir vu ça.
Bon, 8.5, 8.5, 4.
4.1, 4.2.
Non, 4. Ben, merci beaucoup d'être allé voir ce film-là en gang. Ce sera donc la fin de cet épisode de Cinébrunch. On a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons une extraordinaire semaine, un bon festival de films du monde. Non, c'est quoi le titre?
Du cinéma du monde de Sherbrooke.
Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Mesdames et messieurs, je suis moi-même, Louis Laramie, et je vous souhaite une extraordinaire semaine.
Bonne semaine!
Bonne semaine!